Alors, bienvenue à l'émission d'En profondeur. Maintenant, nous allons passer à la rubrique Apatride anonyme et nous avons en studio Simon. Bienvenue.
Merci. Salut Leïla, salut Nancy. Bonjour à tout le monde.
Bonjour. Donc, on vous laisse nous dire ce que vous avez préparé cette fois-ci.
Bien, en fait, j'ai un dossier spécial sur les murs frontaliers à travers le monde. Donc, en deuxième partie de chronique, je vais parler de ça. C'est évident qu'en quelques minutes, je ne pourrai pas faire le tour de la situation mondiale parce que c'est quand même un phénomène important puis qui est de plus en plus, qui va en grandissant, si on veut. Tout d'abord, je vais vous parler des États-Unis. Donc, ça brasse ces temps-ci aux États-Unis. Dernièrement, il y a eu un décret présidentiel qui a été signé qui régulariserait la situation de 3 à 4 millions de personnes aux États-Unis. Donc, des personnes qui sont non documentées actuellement et qui ont un statut non régulier. Il y a quand même des mises en garde. C'est pas un pas vers la citoyenneté. C'est une régularisation qui est temporaire et ça vise principalement deux catégories de personnes. Donc, les parents avec enfants qui sont aux États-Unis depuis au moins 5 ans et les personnes qui étaient mineures au moment de leur entrée. Donc, on calcule 3-4 millions de personnes qui sont visées par ce décret. Il y a des conditions quand même qui s'appliquent, comme par exemple, on n'a pas le droit à sortir et entrer sur le territoire, pas de soins de santé publique, ce qui est assez normal aux États-Unis pour beaucoup de personnes. Toujours aux États-Unis, quand je dis que ça brasse, bien évidemment, on ne peut pas passer sous silence l'assassinat qu'il y a eu à Ferguson en banlieue de Saint-Louis. Mm-hmm. Deux événements semblables récemment qui ont lieu à Cleveland et à New York aussi. Mm-hmm. Le seul point positif que je pourrais voir par rapport à ça, c'est que de plus en plus, il y a une grande mobilisation pour qu'il y ait une loi fédérale sur le profilage racial. Donc, on n'en parle pas beaucoup dans les grands médias, mais il y a énormément de mobilisation. Il y a des marches pour ça. Il y a beaucoup de groupes qui revendiquent une loi sur le profilage racial, des groupes comme Human Rights Watch, beaucoup de groupes de citoyens. Donc, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse officielle de la Maison-Blanche. Le président Obama a dit qu'il songeait à adopter une loi pour que les agents de police soient munis de caméras, donc sur leur uniforme, pour que toutes leurs interventions soient filmées. Donc, on verra. À suivre, ce qui se passe aux États-Unis peut quand même avoir une influence sur ce qui se passe au Canada et au Québec. Donc, on verra. Petite nouvelle canadienne, cette fois-ci, il y a une levée, il y a eu une annonce lundi dernier, donc le 1er décembre, levée immédiate, donc effective maintenant, sur les sur les renvois vers Haïti et le Zimbabwe. Mm-hmm. Donc, les personnes ressortissantes d'origine haïtienne et zimbabwéennes, probablement, peuvent maintenant être expulsées. Il y avait un moratoire depuis plusieurs années. Donc, le gouvernement considère que les conditions se sont améliorées dans ces deux pays-là. Je vais vous citer deux de nos ministres préférés, donc Stephen Blaney. Courte citation. « Les Haïtiens et les Zimbabwéens ont fait preuve de beaucoup de courage en se remettant du séisme de 2010 et des nombreuses années d'instabilité politique. » Chris Alexander, lui, va d'un message un peu plus tordu, je dirais. « Attention, le Canada est un des pays les plus généreux au monde. » La levée de la suspension des renvois met un terme à l'incertitude des Haïtiens et des Zimbabwéens qui auront maintenant l'occasion de présenter une demande pour que le Canada devienne leur pays de résidence permanente. Donc, vous voyez, c'est pour leur bien, finalement, qu'on va autoriser les déportations et qu'on va renvoyer chez eux plein de personnes. Donc, à peu près, on estime à 3500 personnes le nombre de personnes qui peuvent être potentiellement touchées par cette mesure-là. Surtout en ce qui concerne en particulier les personnes d'origine haïtienne dans la région de Montréal. Beaucoup de personnes dont les situations ne sont pas pas toujours très agréables, si on veut. Donc, par exemple, on leur demanderait, s'ils veulent rester, de faire une nouvelle demande de résidence. Demande qui coûte, le prix de base, c'est 550 $ plus frais, plus les permis de travail à renouveler, plus finalement énormément de sous à dépenser pour des personnes qui ont peu ou pas de revenus dans beaucoup de cas. Mm-hmm. Et malgré qu'une demande puisse être présentée, il n'y a pas de résultat garanti. Donc, on ne garantit aucunement le statut de résident permanent
aussi, ouais,
à ces personnes-là. Donc, on leur dit, vous avez 6 mois pour faire une demande et autrement, c'est l'expulsion. SSF, Solidarité sans frontières, lance une campagne pour appuyer les personnes d'origine du Zimbabwe et d'Haïti. C'est dans le cadre de Cité sans frontières. C'est un peu le même genre de campagne qui a eu lieu pour les personnes algériennes, roms et mexicaines dans les années précédentes. Donc, on arrive à notre dossier principal sur les murs frontaliers à travers le monde. Donc, on va essayer de faire un 10 minutes là-dessus, à peu près.
Oui.
Parlant d'Haïti, Haïti partage une île avec la République dominicaine, si on le sait, une frontière que je calcule à peu près à 500 km. Il y a une initiative de la République dominicaine, évidemment, pour construire un mur entre les deux pays. Il y a déjà 17 km de murs existants d'un ancien projet qui avait été abandonné, faute probablement de financement. On sait que la République dominicaine s'amuse depuis des années à mettre des bâtons dans les roues des personnes d'origine haïtienne qui sont sur son territoire. L'année passée, on se rappelle peut-être que le statut des personnes d'origine haïtienne avait été retiré carrément, même des personnes qui étaient citoyennes dominicaines, et des personnes c'est assez inusité, qui sont retrouvées sans aucun statut. C'est assez rare dans le monde.
Oui, oui.
C'est ça, ces personnes-là n'avaient même pas de
statut. Dominicain presque.
Même l'était officiellement, souvent aussi.
Oui, oui, oui.
C'est ça, et sans avoir de statut même du gouvernement haïtien. Donc, on s'est retrouvé avec des dizaines de milliers de personnes sans aucun statut, donc la clandestinité à peu près la plus totale. Donc, on voudrait rajouter le nombre de kilomètres manquants aux 17 kilomètres actuellement. C'est un député dominicain qui entend recueillir 300 000 signatures pour la tenue d'un référendum sur le sujet. Et j'ai pas réussi à obtenir des nouvelles très, très fraîches, mais il semble qu'il soit en voie d'obtenir les signatures pour qu'un référendum ait lieu bientôt. Un autre projet de mur qui est d'un type complètement différent, c'est entre l'Ukraine et la Russie. C'est un projet du gouvernement ukrainien appuyé par l'Union européenne et par l'OTAN. Donc, on parle quand même d'une frontière d'environ 1500 km ici. C'est pas un mur comme on peut l'imaginer avec des palissades ou des panneaux de béton. Ce serait plus une genre de ligne de défense, okay. Si on veut, avec toutes sortes de dispositifs de sécurité, des miradors, des bases militaires. Le gouvernement ukrainien prévoit dépenser 575 millions pour un projet de construction de 1500 km de mur qui durerait 6 mois. Évidemment, c'est pas tout à fait réaliste, là. Beaucoup d'experts disent que ça prendrait plusieurs années, que ça pourrait coûter jusqu'à 4 milliards de dollars, incluant l'achat des terrains, l'expropriation des gens. Ça pose plusieurs questions parce qu'il y a des régions qui ont été annexées à l'Ukraine récemment de manière officieuse par la Russie. Donc, est-ce que la frontière serait... Quel tracé serait choisi? Est-ce que ce serait à l'extérieur des régions annexées ou à l'intérieur de celles-ci? On sait qu'il y a des mouvements séparatistes pro-russes qui sont à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, est-ce qu'on veut les enfermer à l'intérieur de l'Ukraine? Donc, c'est un petit peu étrange comme projet, finalement. Mm-hmm. Et on imagine que beaucoup d'industries, de la sécurité, de l'armement, de la construction salivent actuellement. Donc, probablement que ça pourrait leur faire plaisir. Ce serait le premier mur, à ce qu'on me dit, entre l'ancien bloc de l'Est et l'ancien bloc de l'Ouest, qui serait construit depuis la chute du mur de Berlin.
Oui.
Bon, il y a des murs très célèbres dont je ne vous parlerai pas vraiment, comme Israël, Gaza ou Mexique, États-Unis, parce que on les connaît déjà assez bien.
Oui.
Peut-être juste deux, trois remarques. États-Unis, Mexique, c'est un mur qui est toujours en projet, qui est partiel, donc à certains endroits plus urbanisés, c'est un vrai mur avec des miradors et on tire à vue sur les gens. Il y a des régions, par contre, qui sont très arides, très montagneuses, où il n'y a pas de mur. Il y a un segment que j'ai vu une photo, je trouvais assez étrange, c'est la plage sur l'océan Pacifique entre Tijuana et San Diego. Le mur continue dans la mer jusqu'à, je dirais, quelques dizaines de mètres ou une centaine de mètres à peu près pour éviter que les nageurs se retrouvent du mauvais côté.
Pour vraiment empêcher.
C'est ça.
J'avais appris d'un spécialiste juridique que le mur du Mexique, de la frontière américaine-mexicaine, a été... fondé un peu par le savoir des spécialistes qui ont fondé le mur en Israël.
OK, donc ce seraient les mêmes compagnies ou les mêmes...
Tactiques.
Peut-être les mêmes conseillers et lobbyistes auprès des gouvernements mutuels aussi. Enfin, c'est toute une industrie de milliards de dollars. Là. Ça, mm-hmm. On s'entend, c'est ça. Israël-Palestine, juste un petit mot, je ne ferai pas non plus la description parce que c'est extrêmement complexe. C'est un mur qui est modulaire. C'est quelque chose que j'ai constaté puisque Israël continue d'annexer des territoires par la colonisation. Donc, c'est un mur qui change de place, finalement. Donc, on en installe des parties, on construit une colonie derrière le mur et on replace le mur derrière. Donc, ça fait dire à certains observateurs sur le terrain, ils voient tel type de construction se trouve là et on voit est-ce que ça semble être un mur définitif ou un mur temporaire, donc des trucs qu'on peut déplacer, qui sont plus des clôtures de métal, ou carrément un gros mur de ciment construit, coulé dans le sol. Et grâce à ces observations, on peut observer, on peut même deviner la politique d'annexion d'Israël. Donc, on peut constater, est-ce que, OK, ça, c'est un mur qui semble vraiment définitif. Donc, on pense que la frontière va être là pour encore un bout de temps. Donc, c'est une observation que je trouvais assez intéressante. Donc, les gens sur place peuvent prévoir, ben OK, ma maison est derrière ce bout de mur-là, qui semble être un mur temporaire, donc je vais être déplacé dans les prochaines années. OK, d'autres murs. Un qui est vraiment le plus étrange de tous les murs, je dirais, c'est Inde-Bangladesh, qui est une frontière extrêmement compliquée. Il y a des enclaves, ça tourne en rond. C'est vraiment, aller voir un atlas ou aller voir sur, des cartes sur Internet, c'est vraiment extrêmement complexe. On trouve 92 enclaves bangladaises et 106 enclaves indiennes. Certaines enclaves bangladaises sont complètement emmurées. Certaines n'ont même pas d'électricité. On trouve 24 enclaves dans des enclaves. Et on a un cas unique. On a une enclave indienne qui est à l'intérieur d'une enclave bangladaise qui est à l'intérieur d'une enclave indienne.
Vraiment.
Donc, imaginez la vie des gens. Exactement.
Dans des enclaves, dans d'autres enclaves.
Donc, si quelqu'un, par exemple, a de la famille dans une autre partie de territoire, doit passer, mettons, 4 postes frontaliers et parfois faire des tours complets parce que c'est comme des cercles un peu. Donc, des fois, il y a un seul poste d'entrée et de sortie. Donc, on s'amuse finalement à des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres pour en parcourir 15 à vol d'oiseau. Par exemple, pourquoi cette frontière-là est si complexe? J'avais fait une... la réponse est assez facile à trouver sur Internet, donc je vous dis ça. C'est le résultat des échanges réalisés par les rois locaux au 19e siècle qui, afin de renflouer leur dette de jeu mutuelle, n'hésitaient pas à mettre en jeu des morceaux de leur territoire. C'est absurde et c'est vrai. Malheureusement, il n'y a jamais eu de commission qui a réussi à faire changer Donc, au terme d'un projet qui est quand même déjà bien avancé, c'est l'Inde principalement qui construit des murs, mais le Bangladesh sera le seul pays complètement emmuré au monde. Donc, d'ici probablement quelques années. Le temps file. Je vais vous parler très rapidement de Chypre, qui est une île de la Méditerranée qui est divisée en deux parties à peu près égales. Donc, Chypre, la partie sud, et la partie nord, qui est la République turque de Chypre du Nord. C'est pas un mur non plus à proprement parler, c'est une zone démilitarisée qui fait de 3 mètres à 7 kilomètres de large. Il y a eu à peu près 20 000 personnes qui ont dû être déplacées pour constituer cette zone qui est à peu près vide aujourd'hui. Il y a une ville en plein milieu, la ville de Nicosie, qui est complètement coupée en deux. Donc, c'est une... genre de mur qu'on pourrait appeler zone tampon ou ligne de cessez-le-feu, semblable peut-être à ce qu'on trouve entre les deux Corées, Corée du Nord, Corée du Sud. Donc, une zone tampon qui est patrouillée en permanence par environ 20 000 soldats des Nations Unies. Il y a un projet, en tout cas, on parle de plus en plus de détruire le mur qui a été construit par la Turquie au nord de cette zone-là. Donc, à voir. Je vais quitter très rapidement avec un autre cas assez particulier, Espagne-Maroc, qui ont des frontières terrestres du côté africain.
Oui.
Donc, il y a 3 enclaves espagnoles, une qui est simplement un rocher, mais 2 qui sont des villes portuaires d'une certaine importance, qui sont complètement emmurées, puisque ce sont les seules liaisons maritimes complètement dédouanées entre l'Afrique et l'Europe. Et quand on est dans ces villes espagnoles en territoire marocain, on est sur le territoire de l'Union européenne. Donc, ces murs-là, très impressionnants, ont été construits, financés par Frontex, l'agence européenne qui s'occupe des frontières. Donc, discours de l'Europe qui est souvent très « Ah, faut être gentil avec les personnes migrantes », mais qui finance quand même des murs où des centaines de personnes sont mortes dans les dernières années. Je vais vous quitter là-dessus. Je crois que le temps file.
Bien, merci, c'était vraiment compréhensif.
Bien, merci à vous. Mathieu sera là dans 2 semaines.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.